les amis, et bienvenue pour votre nouveau barbecue foot, le rendez-vous du lundi soir, le rendez-vous foot du lundi soir. Autour du barbecue, on a des habitués, et puis un retour aussi d'habitués, un abonné, on va dire. C'est l'abonné qui s'est mis en sommeil pendant quelques semaines, et puis ensuite il revient pour un gros match. Vous l'avez reconnu, c'est Jason Boutade. Salut Jason.
Salut, ouais, après une belle victoire dans le derby, je suis obligé de revenir.
Bah, c'est ça, quand le LOSC gagne, de toute façon. Tout va hein, pour Jason. Voilà, la vie professionnelle, la vie personnelle, tout va. On va dire que ta vie est rythmée au gré des
Ça aide à passer un
saisons.
bon week-end en tout
C'est
cas.
ça, voilà, exactement mon Jason. Arnautovic, est-ce qu'on le présente encore? Est-ce qu'on doit encore présenter Arnautovic?
Bonjour, bonsoir. Ça fait du bien de se faire présenter, c'est vrai, parce que d'habitude je m'auto-présente, donc
Ouais, non,
donc
mais c'est ça, c'est que je pense que tu es la voix de Radio Mergazinco Co. C'est-à-dire que tu vois, c'est tu es le fil rouge de toutes les émissions. À part le vélo. Toi, tu viens que pour le Tour de France sur Barbecue Vélo.
Ah oui, tout à fait. Je suis un peu comme le suiveur du foot français qui ne se réveille que tous les 2 ans pour la compétition internationale. Ben voilà. D'ailleurs, dans la prépa de l'émission, tu as jeté un voile pudique sur le deuxième match de l'équipe de France et on te remercie.
Oui, effectivement. Donc, on avait fait l'émission lundi dernier sur l'équipe de France. Donc, avant le match contre le Chili, on va pas en parler. Voilà, je pense qu'on a dit
Bah
beaucoup
non,
de choses
parce qu'on
déjà.
dirait exactement la même chose.
On dirait exactement la même chose, effectivement. Même si le petit but d'Olivier
Avec
Giroud
le
nous a fait plaisir. Voilà, on peut dire ça.
et le petit
Voilà.
Randall qui a fait
Et
un bon match.
le petit Randal. Vous avez entendu, il a essayé de faire une onomatopée. C'est Carlos Miser. Salut, Carlos.
Bonjour, bonsoir, bonsoir pour ceux qui nous suivent en direct. Bonjour pour les autres qui nous écouteront sur tous les flux de podcast. Pensez, 5 étoiles, le commentaire, c'est important parce que, bon, comme ça, moi, Christophe nous fouettera moins le lendemain, on pourra
Ben, non, mais
monter au niveau
surtout,
des.
Carlos, il faut 5 étoiles pour pouvoir acheter le fouet. Parce que là on n'a plus d'argent. Hein,
Le
on
foie en
n'a pas de quoi
saucisse.
acheter le fouet.
Le
Exactement.
foie en saucisse.
Carlos, on peut parler aussi de ton actu podcastique, puisque tu as brillamment repris l'animation de Barbecue Basket.
Brillamment.
Et d'ailleurs, il y a eu un Barbecue Basket la semaine dernière, me semble-t-il, Carlos.
Ben, oui, et puis avec un invité aussi, Tiquet, qui est passé nous voir et avec qui on sait bien, on a fait encore un bon épisode, je pense. Je voulais pas
Ouais.
qu'il soit trop long, et puis c'est un peu débordé, mais en même
Ah.
temps, on n'a pas parlé que basket, on a parlé en même temps draft, on a fait la base. Moi, c'est ce que j'aime bien dans ce barbecue basket, c'est qu'on fait toutes les bases. Il faut pas parler qu'aux initiés, il faut parler à tout le monde.
Alors, pour l'avoir écouté en voiture, voilà, parce que c'était un week-end Pascal, donc il y a eu un peu de trajet en voiture. Effectivement, ça ne parle pas que basket, mais c'est super émission. Donc, le dernier barbecue basket, on vous recommande de l'écouter avec l'ami Carlos, qui ne s'appelle pas Carlos Pizarre dans Barbecue Basket, qui s'appelle Derek Géranium. Eh ouais.
Non, c'est moi, Derek.
Non, redonne-moi ton Richard
prénom.
Raccourci.
Richard Raccourci, excuse-moi. Voilà, je ne les ai plus, mes pseudos. Non. Derek Géranium, c'est Arnaud.
C'est ça.
Non, mais
Bon,
Arnaud,
trop
il a
polyvalent,
tellement.
les gars.
C'est ça, il y a trop de pseudos.
C'est ça.
D'ailleurs, je commence. Il va falloir que j'aille voir quelqu'un consulter parce que je commence à avoir un. C'est même pas un dédoublement parce que c'est triplement, quadruplement de personnalité. Donc.
Ouais, alors attends, j'ai le souvenir d'un film assez récent.
Split.
Ouais, et qui est assez flippant. Hein. C'est un truc, un mec qui a 17 personnalités. Hein. C'est ça,
Tiré d'une
Jason?
histoire vraie.
Ouais, c'est
Tiré d'une
ça.
histoire vraie.
Ouais, bah, l'histoire. Déjà que le film fait peur, alors l'histoire vraie doit faire peur aussi. Bon, allez, on se remet dans le foot. Enfin, on s'y met parce qu'en fait, on s'y est quasiment pas mis. Hein. Belle intro de 4 minutes. Voilà, je pense qu'ils
Attends,
apprécient.
attends,
Oui, Carlos.
attends, parce que Christophe, il faut aussi féliciter notre petit Elios qui a fait la
Mais.
300e du barbecue, le coquin.
Et évidemment, évidemment, donc il y a eu effectivement un barbecue vélo hier, hein, hier dimanche. Donc après, vous savez, pour ceux qui s'intéressent un peu au vélo, là, c'est les Flandriennes, hein, c'est les classiques dans les Flandres. Voilà, on traverse la Belgique. Et donc Elio et Rulio, hein, nos deux maestros de barbecue vélo, donc on fait la 300e de Radio Mergazinco. Voilà, ça fait la 300e épisode, 300e émission de Radio Mergazinco. C'est beau, hein, voilà, depuis 2019.
Bravo,
300e. Voilà.
bravo, mon petit
On a
Christophe.
plus d'émissions que
Félicitations.
d'auditeurs. C'est beau. Bon, en tout cas, en parlant d'auditeurs-spectateurs, on a OJCRM qui est là. Salut, salut OJCRM qui nous dit bonsoir à tous après ce triste dimanche soir pour moi, que ce soit sur le terrain et en tribune, avec le tifo de la honte. Mmh. Ouais, donc pour ceux qui ne savent pas, OJCRM est supporter de Marseille. Et donc effectivement, voilà, alors, sur le terrain, il ne s'est pas passé grand-chose. Enfin si, il s'est passé de l'arbitrage encore une fois. Hein. Épisode 355 de l'arbitrage versus la VAR. Et effectivement, cette histoire de tifo, on va y revenir en tout cas. Merci d'être là au JCRM. Alors c'est parti pour notre programme. On va voir un programme franco-anglais. Voilà, franco parce qu'on est sur la Ligue 1 comme d'habitude. 27e journée de Ligue 1, la fin arrive bientôt. Et puis il faut qu'on parle de Brest, hein, parce que Brest, c'est le tube de la saison, ça y est. Alors, ils ont volé le match hein, face à Lorient. Mais Arnaud, justement, je voyais que tu étais en train de faire un tube. Oui, mais finalement, est-ce que ce n'est pas la barque des qualifiés en Coupe d'Europe? Il y a toujours des matchs comme ça où tu ne mérites pas, mais tu gagnes et ça te permet d'avoir les points qu'il faut.
Bah, c'est justement ce qui fait qu'un club, parfois, est en haut du classement. Nice a été en haut du classement pendant très longtemps avec des matchs qu'il ne méritait absolument pas de bien gagner ou de faire match nul. Donc, après, les Brestois ont fait le dos rond et une bonne action avec un but de Del Castillo qui est quand même assez rare. Donc, trop rare dans cette saison. Je crois qu'il en a mis 6 ou 7. Alors, si tu enlèves les pénaltys, il n'en reste plus beaucoup. Mais et comme un pénalty, il faut quand même le mettre. C'est un geste technique comme un autre. Et voilà. Et après, bah, il reste un bon arrêt à la fin, à la 90e, 91e minute, où Bizot fait l'arrêt qu'il faut aussi. Donc aussi bien devant, ça réussit à mettre un pion. Derrière, ça réussit à sauvegarder le score. Ça gagne 1-0 dans un derby breton. En plus, c'est vraiment pas mal. Après, il y a vraiment dommageable pour Lorient. Il mérite vraiment de repartir au moins avec un point. Et ça aurait été vraiment pas mal, parce qu'en bas du classement... ils auraient fait une bonne opération vis-à-vis des Messins et des Clermontois qui ont aussi perdu. Donc,
alors,
tous restons, les points seront importants.
Alors, restons juste sur Brest, parce qu'ils ont affronté une bonne équipe de Lorient, qui est tombée, comme tu l'as dit, sur un excellent gardien. Mais dans le jeu, ouais, disons qu'il y a eu des situations franches pour Lorient, mais dans le jeu, c'était quand même relativement équilibré. Et Brest a assumé, comme beaucoup, comme dans de nombreuses reprises, pardon, cette saison, son jeu en transition. Hein. C'est une équipe en fait qui s'est pliée, qui rompt rarement et qui ensuite derrière met des coups de griffe qui sont souvent mortels. Et le but de Castillo, il est beau parce qu'en fait, il est malin. C'est une espèce de petit intérieur plat du pied bien enchaîné. Hop là, voilà, il y a rien de plus à dire. Ça fait 1-0 et ça fait Brest deuxième, Jason. Ouais.
Ah, c'est clair que ça, c'est impressionnant. Enfin, voilà, je pense qu'ils méritent vraiment leur place vu la saison qu'ils font. Et même si là, dans ce match-là, c'est un micro hold-up, voilà, ils ont quand même eu de la réussite. Faut se souvenir que si Brest est là, ils ont aussi perdu beaucoup de points contre les gros. Ils n'arrivent pas à battre les gros, mais dans les matchs contre les gros, au contraire, ils ont souvent été bons, mais pas récompensés. Donc là, ils continuent leur lignée à battre entre guillemets les petits avec un peu de réussite. Mais ouais, c'est une équipe qui impressionne. Et quand on regarde leur calendrier, honnêtement, va falloir que Monaco ou Rennes fassent des exploits contre eux pour les empêcher de rester sur le podium. Hein.
Bah, la 30e journée, le Brest-Monaco ou Monaco-Brest, je ne sais plus, va être important. Quoi.
Carlos, mais le reste est facile.
Il y a aussi quelque chose, moi, qui. Alors, je dis chapeau à Brest, mais c'est aussi la faiblesse de toutes les autres équipes qui devraient être au-dessus de Brest. Je ne dis pas que Brest fait une mauvaise saison. Hein. Brest est dans un ratio de points, je pense, qui est. Mais c'est, en fait, c'est surtout Monaco, Marseille. Désolé, mon petit Jason, mais même Lille devrait être au-dessus de Brest cette saison. En termes de points, en termes de qualité de jeu, c'est trop irrégulier sur les grosses équipes du championnat de France. Et bah, bien leur en prend pour Brest. Ils profitent de cette situation. Eux, ils sont toujours réguliers. Effectivement, ils peinent un peu plus contre les gros. mais ils arrivaient à récolter les points qu'ils doivent récolter. Et les voilà avec 50 points. 50 points, c'est pas si énorme que ça, mais face à l'irrégularité des autres équipes en face.
Bah, de toute façon, on voit bien le classement. C'est-à-dire qu'on a Paris qui est loin devant 62 points. Hein, donc, et encore, sur les 5 derniers matchs, donc effectivement, il y a 2 victoires, mais ils ont enchaîné 3 nuls. Donc c'est un petit rythme. Hein, on l'avait dit de toute façon lors des présentes émissions, c'est un petit rythme de la part de Paris. Mais je veux dire, quand derrière ça traîne comme ça, bah ouais, moi, Brest, de toute façon, on se l'était déjà dit. Hein, souvenez-vous, on avait même titré une émission. Brest européen. Et on avait tous conclu à la fin que Brest, dans tous les cas, serait européen. Alors, Champions League, ça nous semblait être un petit peu trop haut. Mais là, regardez, il reste quand même pas beaucoup de matchs. Jason l'a très bien dit, le calendrier est plutôt favorable à Brest. Et de toute façon, Brest, ils font le boulot. Quelle que soit l'équipe en face, que t'es une équipe qui joue le maintien mort de faim parce qu'elle joue sa survie, ou que t'es un soi-disant gros qui se fait mordre. Au coup, parce que c'est ce qui se passe, hein. Brest, il te mord au cou. Quoi. Moi, je dis bravo les Brestois, même si c'est quand même embêtant au moment où tu es en train de renégocier les droits de la Ligue 1, de te dire que tu vas avoir le stade Brestois en Ligue des Champions. Je ne veux pas leur faire injure, mais je ne vois pas trop déjà avec quelle équipe et quels résultats ils vont pouvoir faire en Ligue des Champions s'ils y parviennent, sachant que. Ils seront forcément dans un chapeau qui les amènera à tomber sur des très très gros. Voilà, ouais, c'est ça. C'est comme le dit très justement Arnaud.
Ben, c'est facile vu que Brest, la dernière fois qu'ils sont allés en Coupe d'Europe, ça devait être dans fin des années 80, début 90. Hein. Donc si tu as moins de 30 ou 35 ans, tu n'as pas vu Brest en Europe. Disons que là, ils auront en nombre de points en coef UEFA, donc zéro. Et donc, dans ce cas-là, quand tu as moins que le coef UEFA du pays, bah, tu as ce coef UEFA. Donc, ils auront à peu près 11 000 et quelques points, enfin 11, je sais plus, les pouillèmes qu'il y a derrière. Mais voilà. Donc,
ouais, mais honnêtement, c'est un faux problème. Enfin, s'ils finissent sur le podium, ils auront mérité leur qualif. Et regarde dans les années précédentes, que ce soit Marseille ou même Lille ou même Lens, voilà combien de clubs français ont passé la phase de groupe de toute façon. Donc,
en phase de groupe, c'est les seuls qui y arrivent, c'est Monaco et Lyon.
Ah, attendez, les amis, pardon Carlos, mais OGCRM nous dit un truc très juste dans le chat. En fait, il n'y a plus de chapeaux maintenant en Ligue des Champions.
Si, il y a des chapeaux, il y en a 4. Alors, on peut refaire un topo rapide. C'est, les chapeaux ne sont plus faits en fonction, où le premier, on mettait les champions. Et après, c'était au classement UEFA, enfin coef UEFA des clubs, ils étaient rangés. Ben, en fait, là, il n'y a plus de question de champion, c'est que du classement UEFA.
Ouais, c'est ça, ok.
Dans les gens qui sont qualifiés, tu prends les 9 premiers, tu les mets dans le chapeau 1, tu prends les 9, 2, les 9 secondes, tu fais chapeau 2, etc., etc. Et pour avoir le tirage au sort des différents groupes, ben, en fait, tu en as 2 dans. Tu vas avoir 4 groupes de 9. Et donc, tu auras 2 personnes de toi dans ton club. Tu affronteras 2 du chapeau 1, 1 à l'extérieur, 1 à domicile, 2 du chapeau 2, 1 à domicile, 1 à l'extérieur, etc. 2 du chapeau 3 et 2 du chapeau 4.
Et tu fais 8 matchs.
Et tu fais 8 matchs. Il y a 2 matchs de groupe en plus par rapport à cette saison.
Ouais, donc bon.
Il n'y a plus d'aller-retour finalement. Dire que tu peux avoir de la chance et jouer le Real chez toi ou aller jouer là-bas. Mais de quoi qu'il arrive, tu rencontres deux gros du chapeau 1, un à la maison et un à l'extérieur.
Bon, de toute façon, comme le disait Jason, c'est encore un petit peu loin, hein, mais ça sent quand même, ça commence à sentir très bon pour Brest parce que oui, ils jouent crânement leur chance et. Alors là aussi, JCA nous disait, attention, ça va être chaud. Ils jouent Metz la semaine prochaine. Franchement, quand tu vois le match de Metz contre Monaco, je pense qu'ils ont déjà la tête en Ligue 2. Je suis désolé pour les supporters messins qui éventuellement nous regardent ou nous écoutent. Je pense que vous êtes déjà en dépression parce que c'est fini. Je veux dire, autant Nantes a encore une chance de se sauver. Et d'ailleurs, ils l'ont prouvé en saignant les Niçois qui n'attendaient que ça d'ailleurs. Strasbourg, on va en parler aussi parce que Rennes pour moi, c'est la déception du week-end. Il n'y a pas, notre ami, notre ami Jérôme, mais il aurait aussi des choses à dire parce que Strasbourg est allé la chercher face à un Rennes placide. Voilà, je sais pas trop ce qu'on peut dire de plus. Voilà, un Rennes mou.
Un Rennes qui préparait, qui avait peut-être plus la tête à mercredi que.
Ouais, peut-être pour effectivement, peut-être qu'ils pensent que leur saison est uniquement sur la Coupe de France.
Bah, tu fais deux bons matchs, tu es en Europe, hein, alors que là, c'est pas forcément joué. Si tu fais deux bons matchs sur sept, t'es pas en Europe.
Ah bah là, ils gagnaient face à Strasbourg. Ils étaient dans le bon wagon, hein. La Rennes, ils ont. Tu vois, ils étaient à 42 points, ils étaient au niveau de Lens. Tu trouves
À
ça juste?
42 points, mais sachant que les places directes de Ligue des Champions, là, Monaco, c'est 49, hein. Donc même à 42 points, là, c'est vrai que maintenant, Marseille, Rennes, Reims, qui sont à 39 points, ils sont à 10 points de Monaco. On peut presque dire que ces trois
Ah
clubs ont
non, mais
dit adieu à la Ligue des Champions
on est
direct.
d'accord. Pour la Ligue des Champions, c'est mort.
Il
Mais
reste la quatrième place de Lille à 46, qui est bien partie pour. Mais voilà, faudra confirmer.
en fait, t'as un vrai mini-gap en fait, entre le 2, 3, 4 qui s'est fait. Parce que de toute façon, Paris, moi, je l'ai conclu, quelque part. Mais tu as un vrai, quelque part, chapeau 2 entre trois équipes qui vont se battre pour éviter la place de qualification en Ligue des Champions. Et après, tu as un deuxième groupe, un peu plus gros, que moi je considère de Nice jusqu'à Reims, et qui vont se battre pour la place d'Europa
Europa
League et
League, bien
de
sûr.
Conference League. Et
Mais Carlos, c'est là où ça va être sanglant.
bah, je suis à
Il n'y a que Lille, on va en parler juste après, effectivement, avec Jason de Lille. Mais il n'y a que Lille qui, en fait, est en ballottage. On ne sait pas si c'est favorable ou défavorable pour l'instant. Est-ce qu'ils peuvent aller titiller le troisième Monaco ou est-ce qu'ils vont caler et donc devoir effectivement se positionner plutôt sur cette quatrième, voire cinquième place? L'avenir nous le dira. Même si, je vais pas, je vous fais un petit teasing, ce qu'on a vu contre Lens nous laisse plutôt augurer de bonnes choses pour les Lillois. Juste pour terminer sur Brest, toujours au JCRM qui nous dit qu'ensuite ils vont à Lyon. Moi, je ne sais pas quoi penser de Lyon. Franchement, je suis.
Lyon, en fait, si je peux me permettre de faire une petite capsule sur Lyon, j'entends de plus en plus de Lyonnais commencer à imaginer les plans sur la comète. Alors, Lyon, en fait, le vrai problème de Lyon, c'est que là, ils vont jouer leur demi-finale mardi, donc demain face à Valenciennes, et c'est ce qui va vraiment déterminer leur saison, pour savoir s'ils ont sauvé leur saison ou pas. Et savoir s'ils vont pouvoir jouer la Coupe de France, enfin gagner la Coupe de France, soit face à Paris, soit face à Paris, soit face à Rennes. Mais
Non, mais Carlos, Lyon va gagner face à Valenciennes.
oui, bah, normalement, j'en ai un à la maison qui s'attend à regarder la finale face à la télévision. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est par rapport en fait au recrutement. On en avait discuté, alors je pense avec Arnaud déjà, mais je trouvais les recrues plutôt intéressantes au niveau lyonnais. Plus le temps passe, plus je me pose des questions en fait sur la valeur des joueurs et sur leur réel potentiel en fait au fur et à mesure du temps.
De qui tu parles, précisément?
Alors, Matic, c'est vraiment le bon coup de Lyon. Je trouve qu'il a réussi à rééquilibrer le milieu de terrain et il a fait réévoluer dans de meilleures conditions qu'a créé Tolisso.
Quand ça va pas trop vite, hein, Carlos, quand ça va pas trop vite.
Alors, attends, mais tu spoiles ma suite, Christophe, va pas trop vite.
C'est parce qu'il faut qu'on fasse une heure d'émission.
Oui, Matic, il a signé 2 ans et demi avec un gros contrat. Pour l'instant, ça tient. Attention, l'année prochaine. Et je trouve que les deux gros transferts ensuite qui ont été faits, qui sont Benrahma et Mangala, je les trouve pas foufou pour les sommes, parce qu'en fait, il y a les prêts, mais à partir du mois de juin, il va falloir qu'ils versent des sommes réelles. On a tous entendu le chef de la DNCG dire que tous les clubs sont dans le rouge. Lyon a fait quand même des grosses hypothèques sur la saison prochaine. Je trouve que les joueurs sont pas foufous. À voir ce que ça va donner. Et sachant qu'en plus, ils vont perdre des gens comme Cherki, parce que bah, Cherki, ça a l'air de plus aller du tout. Il se fait sortir à la mi-temps d'un match. Voilà. Donc, pour moi, attention à Lyon. Il faut. Alors, ils vont normalement réussir à gagner la demi-finale, mais attention pour la finale et attention pour le début de saison prochaine. Il faut pas se voir trop beau.
Alors, attends, Carlos.
Il est dans mes boules de.
Mais non, mais de... avant de faire effectivement le début de saison prochaine, faisons la fin de cette saison. Donc, bref, on va les rencontrer dans deux semaines. Moi, je sais pas quoi penser de cette OL. Parce que autant ils sont capables d'écraser Lorient comme un insecte, autant ils ont été accrochés là contre Reims. Et si Reims gagne, c'est pas volé. Hein. Si Reims gagne contre l'OL, c'est
Reims,
pas volé. Hein,
Reims, c'est une belle équipe quand même de Ligue 1. Lyon est redevenu à sa place. Là. Ils sont au milieu de classement, ils se sont sauvés, tout va bien. Effectivement, la fin de saison, on s'en fout un peu en fait, du championnat.
On s'en fout un peu.
Mais c'est pour ça que je dis que Lyon, il ne faut pas non plus. Trop se galvaniser par rapport à ce qu'ils ont. Ils sont remontés, ils sont maintenus, c'est très bien. Mais on voit que quand il y a des grosses équipes, c'est pas non plus extraordinaire. Donc, il faut relativiser cette fin de saison. Ils ont réussi à se tirer d'un très mauvais pas dans lequel ils étaient et c'est bravo à eux. Mais il faut pas surévaluer non plus. Attention. Attention.
Bon, on parlait de tout ça. On parlait de Lyon, effectivement, parce qu'ils sont dans le tableau de chasse hein, des Brestois, et c'est sûr que les Brestois, s'ils veulent la Ligue des Champions, il faut tout gagner, quoi. Voilà. Ils gagnent tout, c'est bon. Hein, Arnaud ? C'est aussi simple que ça, le foot.
Ah bah ouais, avec ça, ils pourraient même être champions de France si Paris fait des défaites. Hein. Mais bon.
Ouais, à 12 points quand même.
Non, mais c'est fait, surtout que c'est ce qu'on disait avec il y a quand même le match contre Monaco, où quoi qu'il arrive, il y a un des poursuivants qui va perdre des plumes. Donc, si les deux font match nul, c'est sûr que c'est tout bonus pour
Paris. Là, il reste 6 matchs. Hein. Donc là, on...
Avec, alors après, avec ce genre de choses, après, à voir quand est-ce que Paris sera effectivement champion. Parce que là, c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de suspense, mais ça fait déjà quelques journées que ça dure. Avec sans les trois matchs nuls d'affilée, ça serait encore plus bouclé dans une Ligue 1 où on rappelle il y a moins de matchs. Hein. On n'en a plus que 34 par rapport à 38 et l'écart est vraiment conséquent. Donc, mais après, mais c'est vrai que Lyon, ça peut être vraiment compliqué sur la fin de saison. Alors, je leur souhaite pas parce que franchement, pour le coup, c'est ce que disait Carlos. Si Lyon ça perd contre Valenciennes, je pense que les mecs ils ont la tête dans le seau et ils finissent.
J'imagine pas le parcours.
Ça serait vraiment compliqué. Hein. Ça serait vraiment très très compliqué. Bon, sachant que Valenciennes ça joue plutôt la relégation.
Ouais, c'est impossible.
C'est relégué hein, national. Hein.
On les adore Valenciennes, mais normalement, déjà c'est déjà extraordinaire pour eux d'arriver en demi-finale,
Ça reste la coupe. Et des Lyonnais, justement, qui jouent tout, avec peut-être Textor, tous les dirigeants qui vont venir en leur disant « Les gars, vous ne déconnez pas, s'il vous plaît. La survie du club est peut-être entre vos pieds. Tu peux avoir les pieds qui tremblent. »
Enfin, c'est tellement faible en face, quand même.
Ouais, merci Jason. C'est tellement faible en face, voilà.
Et Valenciennes, bon, après, Valenciennes…
Sur un match de coupe…
Au tour d'avant, je ne sais plus.
Non, ils éliminent le…
Sochaux
le National. Non, c'est le National. Oui, ça doit être Sochaux.
Ouais, pas ouf,
Mais ce qu'il y a, c'est que quelque part, là, c'est l'OL qui a la pression. La finale, que ce soit face à Paris ou à Rennes, ils sont dans l'habit de la surprise. Quelque part, personne ne les attendait là, donc ils pourront jouer plus libérés. Mais attention face à cette demi-finale, parce que quand tu arrives dans le. Ils n'ont jamais connu, en fait, ce vrai habit de favori, et il ne va pas falloir trembler des genoux.
Ouais, Carlos, je te fais le parcours depuis les 32e de finale de Valenciennes. Hein. Valenciennes élimine Sarreguemines. Voilà, je ne sais même pas où c'est.
Dans l'Est.
Voilà. Ensuite, en 16e, ils battent le Paris FC. Bon, quand même une Ligue 2, très bien, comme eux d'ailleurs. Ensuite, ils éliminent l'AS Saint-Priest, voilà, en 8e.
Déjà des Lyonnais.
En quart, ils éliminent Rouen.
Ah oui,
Et
c'est
là,
rond.
maintenant, ils tombent contre Lyon. Donc, ils sont quand même passés par un sacré trou de souris, trèfle à quatre feuilles, méga grosse chatte. Hein. Voilà, bon.
Mais c'est vrai que si tu as Rennes qui bat Paris, ce qui peut être possible, hein, mercredi, ça va claquer des fesses très très fort en finale, hein, aussi bien côté Rennes que Lyon, les deux jouent leur saison.
On est d'accord. Alors les amis, on enchaîne sur la Ligue 1 avec Nice, not nice. Les Aiglons sonnés par les Canaries. Alors, on vous rappelle ce qui s'est passé côté Nantais. Le retour de Camboiré. Voilà, donc ça. Alors Kita, alors voilà, vous dire Kita. Voilà, en fait, il ne sait plus quoi inventer. Je pense que, tu sais. Ouais, ces applications pour trouver des excuses, tu sais, ou pour trouver des trucs, tu sais, c'est toujours des arguments, tu vois, des histoires complètement folles. Bon, bah là, je pense que Kita, en fait, c'est lui, hein, l'auteur de toutes ces de tous ces trucs. Là, il s'est dit, je vais ressortir Camboiré. Le reste, c'est ça marche. Ça marche parce que on a retrouvé un homme solide. Alors, il l'était déjà hein, avec Ouvanek, mais on a trouvé aussi un Nantes plus agressif. Et justement, les Aiglons, ça fait quand même depuis quelques semaines là, qu'on en parle de Nice, malgré leur entraîneur italien qui est moqué. Alors, je ne sais pas si vous suivez Julien Cazard, mais il y a une de ses dernières vidéos, enfin de ses sketchs qu'il fait pour RMC, les autres, sur l'entraîneur italien. C'est Farioli, c'est ça, hein?
Oui.
Avec une voix de crooner italien. Mais c'est un petit peu ça, c'est que. Je pense que là, on voit les limites de ce coach, de ce jeune coach, qui n'arrive pas à réveiller son groupe. Là, les Niçois, ils sont complètement endormis. Et cet endormissement les fait progressivement retomber vers le milieu du classement, mon Arnaud. C'est ça l'histoire.
Ah bah là, quand tu regardes les pronostics de sur les fins de saison, les simulations de fin de saison de chez Octa, c'est la gaussienne la plus plate. C'est-à-dire que eux, et ça leur fait aller, ils ont encore 0,3% de chance d'attacher la deuxième place, mais eux, leur gaussienne, elle s'étend jusqu'à la 11e place. Donc en fait, même les gars qui font les simulations de fin de saison en faisant tourner les matchs avec les forces en présence, les dynamiques, etc., ils les font finir. C'est-à-dire la tête de la gaussienne est à la 6e place. Donc tu vois, ils savent pas trop. Donc finalement, et nous non plus, parce que les mecs, ils sont capables de gagner la semaine dernière, je vais pas dire tranquillement, mais tu vas quand même gagner à Lens 3-1. Gagner à Bollard, c'est jamais compliqué. Mais derrière, le Nantes d'Antoine Comboiré qui renaît de ses cendres, ce n'était plus des Canaries, mais des Phénix. Avec sans Simons qui s'est blessé pendant la trêve. Franchement, je donnais pas cher de la peau des Canaries. Et a priori, bah, Nantes, ça reprend du poil de la bête. Sachant que, comme vous l'avez dit, ça reçoit Lyon la semaine prochaine. Ça doit gagner au Havre à la journée suivante. Parce qu'après, ils reçoivent Rennes, ils vont à Montpellier, c'est encore le match qu'il faut gagner. Et surtout, c'est les trois derniers matchs. C'est Brest, Lille, Monaco. Avec des clubs qui, techniquement, auront une petite place à gratter en Ligue des Champions au bout. Donc, on va dire que Brest-Lille-Monaco, c'est pas gagné pour Nantes. Donc, ce sont de superbes 3 points pour les Nantais. Et pour Nice, bah, c'est vrai que. Bah finalement,
Alors,
c'est ce qu'on sentait depuis il y a déjà quelques mois, c'est que tu as une lente déchéance et
non, mais c'est alors,
on pensait pas personne pensait qu'il pouvait tenir comme ça toute la saison
Arnaud,
en prenant tous les 3 matchs.
souvenons-nous quand même de ce qu'on s'est dit il y a quelques mois, au moment où justement ça fartait pour Nice avec des scores très étriqués. C'était moi, ça sentait l'escroquerie. Hein. Ça sentait l'Italian Job. Là,
Ça faisait le mot.
OJCRM nous dit, et il a raison, alors Nice va jouer Marseille, Paris, Lille. Pour OJCRM, ça sent le ventre mou. Qu'est-ce que t'en penses quoi, Jason?
Ah, ventre mou, je ne sais pas, parce qu'il avait quand même une bonne avance. Et là, au classement, finalement, il reste quand même voilà, cinquième. Ils ont quand même encore un peu de marge sur les équipes du ventre mou. Mais disons que dès le départ, effectivement, ils ont eu beaucoup de réussite. Et là, j'ai vérifié les stats. C'est la cinquième pire attaque de Ligue 1. Et quand on a le matos Cafarioli quand même, à Nice, même
Ouais.
s'il mise d'abord son défense ce c'est pas normal avec ces joueurs-là d'être la cinquième pire attaque de Ligue 1. Donc en termes d'animation de jeu, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je pense que ça, au niveau moral, ça doit pas les aider. Alors après, de là à dire qu'ils vont finir ventre mou, je sais pas, parce que même si la série est pas bonne, ils vont quand même pas non plus perdre tous les matchs. Et comme voilà, Arnaud l'a rappelé, ils sont allés taper Lens quand même. Donc sur un match, il y a quand même de la qualité, tout est possible. Donc je les vois pas plus faire la Ligue des Champions, mais s'accrocher 5-6, ça reste jouable encore pour eux, parce que Marseille, Rennes ou Reims, voilà, c'est pas non plus un rythme de dingue non plus, hein.
On est inquiet, en tout cas on est inquiet. Enfin, on est inquiet. On n'est pas supporter de Nice.
Si Rennes perd mercredi, je pense qu'ils vont mettre tout ce qu'ils ont à mettre pour essayer de bien finir. Parce que là, pour le coup, s'ils veulent attraper l'Europe, ça sera que par la moyenne du championnat.
Bon, je vois que Nice vous a pas trop inspiré, et ça tombe bien parce qu'en fait on s'en fout un peu de Nice, désolé, hein. Donc ça va nous faire gagner du temps sur le conducteur. On va parler du gros coup du week-end qui est le coup du LOSC. Le gros coup du LOSC face au RC Lens, c'était le derby du Nord. Et moi, avant de céder la parole à notre ami Jason, parce que c'est lui notre Lillois de l'État.
Christophe,
Oui.
est-ce que tu as mis un traducteur automatique pour comprendre ce que va dire
Ben oui, tu vas voir, tu vas voir mon Carlos.
On va
Attends,
avoir les sous-titres.
il va arriver, il va arriver, il va arriver.
Mais quelle indignité!
Quelle indignité! Moi, j'ai qu'une seule chose à dire. J'ai envie de dire, et donne-moi ton talent, Zegrova.
C'est beau.
Vas-y, Jason.
Alors, le gros coup du week-end, tu vois, je suis un peu relativisé. Enfin, vendredi soir, je t'aurais dit la même chose, en espérant que Monaco et Brest perdraient des plumes à l'extérieur. Vu que ça n'a pas été le cas, finalement, bon, bah, je me dis, on a juste fait le service minimum à domicile. Bon, néanmoins, c'était un bon match. Lille a plutôt bien maîtrisé Lens, qui a eu très très peu d'occasions, en tout cas jusqu'au but de la réduction du score de Wai. Zegrova, comme tu l'as dit, il marche sur l'eau, effectivement. Alors, c'est pas toujours 100% de réussite, hein, mais mine de rien, il a des stats que Dembélé pourrait envier, par exemple, en termes de finition. Donc,
Jason, il est quand même assez étrange, ce joueur Edon Zegrova, parce que il a quand même la nonchalance en lui. Ça, il y a un truc, c'est que c'est un formidable combattant. Il est sur tous les ballons, il est d'une sûreté technique et d'une créativité assez unique en Ligue 1. Mais il a quand même une démarche globale assez nonchalante. C'est quoi? C'est son côté Europe de l'Est? C'est quoi?
c'est vrai qu'il a un peu ce délit de sa gueule, effectivement, d'arrogance et de nonchalance. Et je pense que même Fonseca lui fait quand même assez payer régulièrement, parce que finalement, Ounas, quand il a été dispo, il a quand même joué assez régulièrement. Et quand tu vois le bilan d'Ounas et en plus toutes ses blessures, moi je comprends même pas qu'un coach de Ligue 1 lui fasse encore confiance. Et Zegrova, il a quand même tapé le banc quand même assez régulièrement depuis un an et demi. Donc le coach lui fait pas de cadeau, et justement parce qu'il est hyper exigeant avec lui et il veut qu'il ait plus de régularité, qu'il soit plus, voilà. Donc ouais, c'est loin d'être un joueur parfait, mais c'est quand même un joueur frisson, et ça fait du bien de voir ça au stade.
Bon, la performance de Zegrova ne se résume pas à son premier but fantastique. Je vous invite vraiment, si vous aimez le football, regardez le contrôle de Zegrova. Parce qu'il reçoit un ballon vraiment pas facile dans le dos. En fait, le contrôle fait tout. Je pense que maintenant, même si derrière il faisait un pointu, il y avait but. Il y a
Ouais,
tellement sémantique.
pas exemple de tout reproche sur la frappe. Je trouve qu'il est
Il
très
ferme pas bien le
contrôlé, je
côté.
pense.
Il
Ouais,
ferme pas bien le côté.
ah, il
Après,
s'est
c'est.
rattrapé dans la suite du match quand même, hein.
Oui.
Après, c'est quand même toujours difficile parce que quand tu as un faux pied comme ça qui rentre et qui rentre sur son bon pied, c'est comme un joueur de hand. C'est-à-dire qu'il s'ouvre totalement le but. Tu peux aussi bien allumer le premier poteau et si en fait il ferme bien son premier, tu peux ouvrir ton pied pour essayer de la jouer au deuxième poteau. Donc, c'est la position qui fait que. Quelque part, c'est quand même difficile après à arrêter quand il est dans cette position-là au niveau du gardien. Enfin, de Brice Samba, je trouve.
Alors, on a OJCRM qui nous parle aussi de Daraldsson, le joueur islandais du LOSC. Alors, vous savez, nous, chez Radio Magazine Co, on n'aime pas les clichés. Mais c'est vrai que Haraldsson, il a quand même tout du joueur nordique. Le mec, il est increvable. Enfin, franchement, il jouerait dans la série Viking, ça serait la même chose. Le mec, non mais, le mec est inarrêtable. Enfin, toi, c'est.
Alors, t'as raison, mais t'as raison depuis trois matchs en fait.
Oui.
Parce que sinon, Haraldsson, c'était quand même, il a quand même été recruté pendant une quinzaine de millions, je crois, l'été dernier. Il a fait une super prépa et le premier match en Ligue 1, enfin les premiers mois plutôt, il se faisait bouger au moindre contact, il arrivait à éliminer personne, il ratait tout ce qu'il entreprenait. Et ça prouve bien que bah, dans le football, il faut de la patience, déjà pour l'intégration, pour la prise en compte tactique, et puis aussi bah, qu'il y ait le petit déclic, quoi, la confiance qui revienne. Et effectivement, là, depuis 2-3 matchs, mais c'est vraiment tout récent, hein, il commence à retrouver ça. Et là, contre Lens, il a fait, je pense, clairement son meilleur match de la saison. Il était partout, effectivement.
Ouais, alors, tu as
Mais
raison, c'est
surtout
vrai que.
qu'il a 20 ans. Enfin, je veux dire, c'est pas comme s'il avait 25
Non,
ou.
mais en fait, il faisait trop chaud pour lui. Voilà, parce qu'il faut quand même vous dire, quand on est islandais et qu'on arrive dans le nord de la France, c'est comme
C'est le
si
sud.
nous, voilà, c'est comme si nous, on nous amenait, tu vois, dans le sud de l'Espagne, quoi. Voilà. Donc, il fallait quand même qu'il s'habitue. Mais depuis trois matchs, et particulièrement ce match contre Lens, et on s'était dit lors de la préparation de l'émission, moi, je trouve que ce Lille-Lens, c'était le meilleur match du week-end. Parce que c'était du football total. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser au City Arsenal. On va en parler juste après parce qu'on va parler de la Première Ligue, où il n'y a pas eu de but, et il n'y a pas eu de but, mais il y avait la même intensité. C'est que tu sentais que vraiment chaque duel était âpre, il y avait une bataille tactique, c'était du foot de très haut niveau. Voilà, donc, dommage pour les Lensois parce que cette défaite. Ben, malheureusement, les condamne effectivement à ce ventre mou du classement. Je pense qu'ils peuvent plus espérer grand-chose, les Lensois. Mais pour les Lillois, ben, c'est le gros coup, parce qu'ils sont justement à cette quatrième place, ils sont en embuscade pour aller chercher peut-être Monaco, hein, et on verra comment ça se passe pour les prochains matchs. Il y a l'OM, et je pense que l'OM, la prochaine journée, donc c'est l'OM qui se déplace à Lille. Je sais pas ce que tu en penses, Jason, mais je pense que l'OM, c'est le meilleur moment pour les prendre. Hein. Là, ils ont la tête dans le seau.
Ouais, bah Marseille, tu vois, un peu comme Brest, je pense qu'ils ont un peu un complexe contre les gros, là. Récemment, ils ont peut-être atteint leur plafond de verre aussi. Néanmoins, pour la fin de saison, que ce soit Lille ou Marseille, bah, il y a quand même la Coupe d'Europe qui joue beaucoup, et tant physiquement que psychologiquement, ils ont ces deux équipes avec deux gros matchs, et que ce soit Lille pour la Ligue des Champions ou même Marseille pour accrocher potentiellement la quatrième ou cinquième place. Ils vont perdre des plumes forcément avec au moins leurs deux prochains matchs, voire plus, ce qu'on souhaite aux deux équipes, quoi.
Arnaud, tu les vois où toi, Lille, à la fin de la saison?
Tout dépend si Brest, parce que Monaco, ils sont tellement irréguliers, mais il suffit qu'ils performent un petit peu à domicile et qu'ils continuent à être quasiment la meilleure équipe à l'extérieur du championnat. Pour pouvoir espérer des choses. Donc en l'état actuel, de toute façon, bah, j'ai envie de te dire, si je reprends Opta, la place là où ils obtiennent le plus gros pourcentage, c'est quatrième. Mais ce qui est rassurant pour les Lillois, c'est que Opta leur prévoit. Alors après, les pourcentages changent à chaque journée de championnat quand tu incorpores les nouveaux résultats. Mais tu vois, c'est pas perdu non plus, parce que pour eux, finir deuxième 16,3% et troisième 27%. Donc ils leur mettent une pas loin de 50% de chance de finir dans le top 3. Donc
Moi, j'y crois pas pour Lille.
si, y a quelques points d'écart, mais je pense que Monaco, eux, vont maintenir. Tout viendra de Brest si s'écroule sous la pression, si les pieds commencent bah, comme pour Lyon contre Valenciennes et contre Paris ou Rennes en finale. Est-ce que la pression va commencer à être un petit peu plus forte sur les Brestois, et que dans ce cas-là, une équipe justement comme Lille ou comme Monaco, qui est un peu plus habituée à disputer la Ligue des Champions, au moins l'Europe, avoir des joueurs qui sont plus enclins à résister à ce type de pression. Donc non, pour moi, c'est pas fini. Lille, je les vois troisième.
Toi, Jason, alors
Non,
ton
pour
cœur,
moi,
ton cœur les voit plus haut, mais ta raison te fait dire que c'est difficile
Non,
d'imaginer une défaillance de la part de Brest ou Monaco, c'est ça?
Alors, pour moi, Lille est à sa place, parce que Brest et Monaco sont devant depuis très longtemps. Brest et Monaco ne jouent pas d'Europe. Et Lille, même s'ils ont fait une belle victoire, c'est deux victoires sur les cinq derniers matchs quand même, hein. C'est pas un rythme de fou, hein. Enfin, Lille, c'est aussi voilà, c'est aussi irrégulier, ça perd des points, ça gagne quasiment jamais à l'extérieur. Enfin, voilà, c'est pas parce que là il y a une belle victoire contre Lens qu'il faut voir la mariée plus belle qu'elle ne l'est réellement. Donc quatrième, pour moi, c'est leur place, et s'il y a plus, ce serait vraiment un petit miracle, quoi.
Après, ce qu'il y a, c'est que vous avez aussi la Coupe d'Europe qui peut vous prendre un peu des forces, mais qui, dans une sorte de ferveur positive, peut aussi vous transcender. Un bon match aller-retour face à Aston Villa, une qualification un peu réussie, ça peut donner des ailes aussi à cette équipe et peut-être vous faire un peu ce step-up qui, de la quatrième, pourrait vous faire monter à la troisième place. Hein. C'est
Oh mais...
quart de ligne. Après, tu es qu'en quart. Hein. Tu vois.
Ouais, mais justement, t'élimines Aston Villa qui est la plus grosse équipe de cette Conference League. Donc derrière, franchement, si je ne sais plus qui y rencontre, mais
Tu
c'est
dégages
quand
un peu
même
la
deux ou
voie.
trois classes en dessous, il y a la voie royale pour aller au bout.
C'est pas le Fenerbahçe
Ah,
Voilà, c'est ça.
pas Fenerbahçe Olympiakos.
C'est
C'est
ça,
ça.
voilà. C'est quand même largement en dessous. Mais tu vois, ce qui me fait dire aussi que moi, j'espère Lille, parce que c'est une équipe que j'aime, avec un entraîneur que j'aime. Donc
Wow,
les
la
voir en
déclaration
haut, c'est
d'amour.
voilà, c'est une équipe. Bah, de toute façon, je pense que si vous reprenez les premiers podcasts du début de saison, c'est une équipe que j'espérais voir finir dans le top 3, parce
C'est vrai,
que voilà,
avec
j'aimais bien ce
Clermont.
qu'elle jouait. Et donc tu vois, tu as Marseille qui est prenable, parce qu'en plus avec ses 12 000 blessés. Mais il paraît que c'est la cellule médicale de Paris qui est
Attends,
mauvaise
Arnaud. Arnaud,
après
Arnaud,
l'équipe.
Arnaud, Arnaud, parce qu'il nous reste quelques minutes sur la Ligue 1, parce que
Ouais.
j'aimerais qu'on parle quand même de la première Ligue. Tu viens de nous parler de
À
Marseille, et bien
Strasbourg,
justement,
il y a
regarde.
le Monaco qui va être
Hop.
très important. Mais sinon, après, Metz, Lyon, Nantes et Nice.
Attends.
Si tu me dis que Lille ne prend pas, sur les 21, ne prend pas au moins 12 ou 14 points.
On vient de parler de Marseille, on fait la transition vers l'OM PSG ou le Classico à histoire. Alors, quelle histoire? Est-ce que c'est la grande histoire ou est-ce que c'est les petites histoires? C'est le retour de polémique. Avec polémique, il est quand même présent sur la dernière saison sur la dernière semaine de Ligue 1. Là, il était bien là. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai vu ce match. Je me faisais un plaisir de regarder ce match. Enfin, je me suis dit, waouh, super, t'as un petit OM PSG. En plus, il y avait un petit peu d'enjeu. Et non seulement j'étais déçu par ce qu'il y avait sur le terrain, parce que franchement, c'était pas du très haut niveau. Et la victoire de Paris, elle est logique. Mais logique dans le sens où, franchement, Marseille n'a rien proposé. Et qu'on vienne pas me sortir le but de Veretout. Ah ouais, Veretout, on lui a retiré son but. Ça a changé le scénario du match. Non.
À juste raison,
Ouais,
pour le coup.
ouais, juste raison. D'accord, mais bon. Alors.
Application des règles du jeu. Après, à un moment, si on enlève le fait que c'est
Ah,
une
bien
règle
sûr.
qui existe depuis des années et des années,
Non, mais le
bon,
match ne joue pas
après.
là. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que le match ne se joue pas là. Il se joue sur ce qu'ils ont montré et cette équipe est globalement malade. Voilà, docteur Gasset n'a pas trouvé le remède et d'ailleurs, ce n'est pas
Elle est
un.
malade.
T'es
Pourquoi elle
un
est
peu
malade?
sévère quand même.
Pourquoi elle est malade? Parce qu'elle a changé 3 fois d'entraîneur, que Longoria n'a pas préparé un bon effectif pour cette saison et qu'en plus, avec ces fameux matchs amicaux dont je vous avais dit que c'est quand même des trucs à blessure, et ben Marseille, avec cette trêve internationale, a encore perdu 3 défenseurs. Et voilà. Et
Ils
en
ont
fait.
perdu leur meilleur défenseur pendant le Classico. Et bizarrement, Paris ouvre le score 3 minutes après.
C'est ça. C'est qu'à un moment donné, Marseille, ils peuvent pas. Ils ont rappelé Spa. Alors, pour les pas trentenaires, je vais vous parler d'un nom quand même que vous ne devriez pas connaître. Ils ont rappelé Sparania, qui était un des
Légende
bébés de
nationale.
l'OM quand l'OM avait boycotté un match contre Paris en allant à Paris. Le mec, il joue en National 3 et ils l'ont mis
Oui,
sur la feuille de match. Mais oui, mais ça
oui,
veut bien
d'accord,
dire que
il est
tu n'as
dans le
plus de
groupe, il est
joueurs.
dans le groupe.
Ah,
Oui,
le
mais il n'y a
grand
plus de joueurs.
Marseillais,
Non, mais
il faut dire.
OJCRM dit un truc très juste. Alors, il n'est pas d'accord parce que forcément, j'ai dit que Marseille n'a rien montré. Bon, ils ont pas eu pléthore d'occasions, ils ont eu des occasions. Ils sont tombés sur un bon Djidjo
Non, mais
Donnarumma.
avoir des tirs, c'est pas avoir des occasions.
Ah, ils ont des occasions quand même, Arnaud,
1,2,
il faut dire ça.
1,2 d'XG sur 22 tirs, c'est une moyenne de moins de 6% de chances de marquer par tir.
Ouais, mais il n'y a pas que les stats. Enfin, Donnarumma, il fait des bons arrêts quand même. Enfin, voilà, ils ont quand
Il y
même
en
eu.
a 10 arrêts par Donnarumma, il y en a 6, comme le dit extrêmement bien OGCRM, c'est des frappes de poussin dans la niche, tout droit. C'est-à-dire, il n'a même pas à faire un plongeon. Il y a les quelques actions par-ci par-là où il y a de la classe. Mais sinon.
Et puis Jason, ils sont quand même, pendant les deux tiers du match, à 11 contre 10. Enfin, pour moi, l'opportunité est là. C'est-à-dire que quand Peraldo se fait expulser, et d'accord, il y a polémique et tout, c'est justifié. Je pense que Benoît Bastien, il a pété un câble, un petit peu comme cet arbitre, vous savez, il y a 2 ans, à la CAN, le mec il avait pris un coup de chaud, il avait sifflé la fin du match 10 minutes avant. Voilà. Je pense que Benoît Bastien, il est sorti, ok, très bien. Mais
Il s'est
tape.
expliqué.
Oui, il s'est expliqué droit dans ses bottes, n'importe quoi. Bref. Donc là, tu as Paris qui a 10 contre 11. Tu es l'OM. Moi, je me suis dit, oulala. Franchement, je me suis dit, Marseille va gagner. Tu vois, Marseille va l'emporter. Parce que justement, ça poussait. Ça poussait, hein. C'était timide du côté de l'OM, mais c'était assez équilibré. Tu ne voyais pas comment Paris pouvait s'en sortir à 10 contre 11. Et deuxième mi-temps,
Surtout
Paris joue mieux
que
à 10.
mais
Après.
Mais
Et comme au Havre.
il y a une stat qui est totalement affolante de la part de l'OM. Ils ont perdu, je crois, alors là, ça fait 3 points. Ils ont dû perdre 15 points alors qu'ils sont en supériorité numérique. Ils ont 2 matchs nuls. Il y a Monaco et
Il y
je sais
a Nantes
plus
au début de
et
saison.
Nantes, où ils perdent des points en plus à domicile. Brest, ils sont réduits. Brest est réduit à 10. Ils perdent le match. Paris, pareil, il me semble qu'il y a un autre match encore. C'est quand même, ça devient de la faute professionnelle aussi de la part des joueurs. Moi, je minimise pas la part de la direction, mais au bout d'un moment, de la part des joueurs, c'est quand même pas possible. Quand l'équipe en face se réduit à 10, tu dois quand même proposer un autre type de jeu, quoi.
Bah, le plan de jeu de Marseille sur beaucoup de. Ah, on s'était gargarisé avec l'arrivée de Jean-Louis Gasset. Moi, c'est un entraîneur que j'aime bien. En plus, dire que on a parlé de Laurent Blanc, mais celui qui faisait quand même un petit peu le sel de ce duo, c'était quand même Jean-Louis Gasset.
Oui, c'était l'entraîneur. Laurent Blanc, c'est un manager. L'entraîneur, c'était Gasset.
Exactement. Donc, quand tu as eu sous tes ordres des Zlatan, etc., c'est que tu sais quand même manager des mecs et même les entraîner, leur proposer des choses à l'entraînement. Mais bon, les équipes qu'ils avaient rencontrées, c'était Montpellier, Clermont et Nantes. Et le Nantes qui était donc ça avait fait 3 victoires. Il y a eu l'excellente victoire contre Villarreal pour le coup. Celle-là, elle était belle, même si dans les circonstances avec un arrière central qui était en dessous de tout. Mais la presque remontada qui se prennent contre Villarreal, plus la défaite contre Rennes juste avant la trêve, et là, bah, la myriade de blessures. Parce que comme le dit très bien OGCRM, c'est vrai que Gigot n'est pas sur le banc, Balerdi, normalement, il ne doit pas jouer, Ulysse Garcia, qui revient tout juste de blessure, il ne doit pas jouer non plus.
Eh ben,
Enfin bref,
surtout qu'il
t'as quand
c'est un
même...
gaucher qui joue
Un
à
bon
droite.
match.
Ouais, mais franchement, Luis Garcia, le mec, il est censé pas jouer. Il est gaucher, il joue pas à droite. Ok, on l'a vu un peu maladroit, mais il fait son match. Hein.
Ah bah, il avait un
Oui, mais
fantôme en face de lui
c'est
sur son
vrai.
côté, donc ça devait aller.
Il avait Fantomas, ouais. C'est vrai. Non, mais alors, OGCR nous le dit. Hein. Il nous dit, pour lui, le tournant du match, c'est la blessure de
Non.
Mbemba. C'est
Trois,
clair que.
deux, 3 minutes après, but de Paris.
Alors, ça,
Et
c'est vrai.
apparemment, ça a l'air d'être quand même assez sérieux.
Balerdi
Hein.
qui a des crampes à la 67e ou 68e.
Et puis
Et ça.
on a Elio qui nous fait un petit coucou aussi dans le chat pour la
Et ça.
301e émission. Hein, ouais, c'est ça. On vous l'avait dit en
Mais
intro. Et il nous
la
dit,
blessure,
il nous dit
la blessure. Vas-y,
vas-y, Carlos, vas-y.
Ah, mais la blessure a l'air d'être quand même assez sérieuse. Hein. Donc.
Ah, pour Bemba, il sort même pas tout seul. On l'aide à sortir. Franchement, je suis peut-être pas loin de dire que c'est une fin de saison pour Bemba. Hein. Je sais pas,
Ben,
faudrait voir les examens, mais.
j'ai pas eu comment dirais-je?
Non, on
J'ai
n'a pas
pas
eu le
vu
retour.
le truc, mais ça sent pas bon pour lui.
Qu'est-ce qu'on a comme info? Si on va toucher à la cheville. Voilà, toucher à la cheville.
Ouais, bon, ça
Ah, mais
n'en
ça
peut
ne
rien
te dira
dire.
rien dire.
Ça dépend le grade de la blessure, donc
Ouais.
on va
C'est
pas
bon.
faire les Madame Irma.
On a
Pour
Elio qui
savoir
nous
si c'est
dit.
ligamentaire ou pas, quoi.
Il nous dit que la première mi-temps pour lui, elle était quand même dominée par les Marseillais.
Les deux grosses occasions sont parisiennes.
Ouais, je ne parlais
Même
pas de
s'il y
domination.
a une bonne frappe qui lèche le poteau parisien. Je sais plus, c'est pas Veretout qui l'a fait, la frappe, je sais plus. Mais bon, ouais. T'as Dembélé qui
n'a pas dominé. Voilà, je dirais pas dominé, mais c'était relativement équilibré. Voilà, mais relativement équilibré, sachant que encore une fois, le niveau du match n'était pas dingue.
Ah, tu peux utiliser le terme médiocre techniquement.
Ah ouais.
Alors, il y avait du vent, il y avait la pluie, etc. Je veux bien. Mais alors, en première mi-temps, c'était atroce des deux côtés. Et après, c'est le pari post-trêve. En général, c'est jamais très reluisant. Les mecs, il leur faut un petit peu de temps pour se mettre en route. Mais c'était du hand. Ça faisait tourner la baballe.
Voilà. Ouais, c'était pas.
C'était affreux.
Si vous voulez voir et Lille-Lens. Voilà.
Ouais, exactement. Et c'est la sortie de Berhalo, finalement. Ça te regonfle les Parisiens qui sont obligés de faire les efforts. Sauf un mec devant avec le numéro 7 et qui est sorti à la 63e, c'est pourquoi. Parce que même à la limite, tu vois, il y a des gens qui pourraient dire bon, on s'acharne sur lui, etc., y compris l'entraîneur. Mais même l'équipe commence à le voir. Hein. C'est lui qui a la moins bonne note du match. Ouais, il a 3. Ils ont parlé d'Mbappé. Bon, après, avec sa story.
Ouais, mais vous savez quoi ? Ne parlons pas
de Mbappé. On va même pas en parler parce qu'on n'a pas le temps.
Ouais.
Mais après, sur le reste, il sort un joueur qui est inutile quand tu joues à 10, parce que finalement, tu joues à 9, même si il est en pointe. Et c'est vrai que tu peux te dire, en jouant les transitions, bah, on l'a vu. Hein, dire, Paris a joué les transitions, ils ont marqué 2 buts comme ça. C'est finalement, on le dit, ça fait déjà quelques saisons que Paris est l'une des meilleures équipes en transition du monde.
Ah bah attends,
avec ce qu'il avait dedans, avec ce qu'il y a devant.
Le premier but de Vitinha, mais il est d'une justesse technique. Tout est parfait.
C'est presque l'une des premières fois du match où ça s'enchaîne bien, quoi.
Ouais.
Je dis, sauf Dembélé, si en première mi-temps, il faut lui faire faire des ateliers frappe. C'est-à-dire que même un U9, il frappe mieux la balle, quoi.
Mmh.
Alors qu'un mec qui est doué techniquement, monstrueux, plusieurs fois il passe en revue toute la défense et après bah, ça frappe à côté. Mais tu vois, il y a même pas de conviction dans la frappe, c'est que tu sais même pas ce que c'est. Alors bref, mais derrière oui, c'est un superbe enchaînement. On voit aussi que quelque chose a changé dans l'équipe, mais ça fait quand même quelques semaines. Vitinha avance, il transmet à Dembélé sur le côté. Il lui remet, il y a encore quelques mois, il l'aurait transmis à gauche pour Mbappé.
Ah non, mais attends.
Après, tu as le ballon qui lui revient,
il s'avance,
il frappe. Il y a quelques mois, il l'aurait à nouveau passé à Mbappé sur le côté.
On reparlera du PSG lors des prochaines émissions. Voilà, on voulait parler plutôt des autres clubs, on ne parlera pas de Rennes non plus, parce qu'il n'y a pas Jérôme. Et vous savez qu'on ne peut pas parler de Rennes sans Jérôme. Surtout pour dire du mal de Rennes.
Qui a fait l'exploit de perdre contre l'équipe qui était la plus mauvaise depuis janvier.
Voilà, non mais donc, écoute, pour critiquer Rennes, il faut que Jérôme soit là, on ne va pas le faire derrière son dos.
Oh bah, je pense qu'il le ferait très bien.
Il le ferait très bien, par contre on va parler d'une autre équipe qu'il supporte et qu'il aime, parce qu'on va traverser la Manche, on prend le ferry, ou alors je vous fais version tunnel sous la Manche, Eurostar, hop ça y est, on est en Angleterre, et en Première Ligue. Alors, ça commence à se préciser aussi, puisque en Première Ligue, chers amis, nous sommes bientôt proches de la fin, puisque nous arrivons sur la 31e journée sur 38. Donc, il reste 8 matchs à jouer en Angleterre. Et c'est Liverpool qui se frotte les mains, parce que Liverpool a remporté son match face à Brighton, alors que c'était mal engagé. Hein, ils ont pris un but de Danny Welbeck au bout de la deuxième minute, une espèce de cafouillage qui a permis à Welbeck de l'emporter. Et puis ensuite, Brighton s'est mis en mode... on pose le bus, et puis bon, bah, les autres, ils ont sorti la sulfateuse, et puis pendant 90 minutes, ils ont artillé, et puis le bus, il s'est désintégré, ils ont gagné 2-1. Et il y avait surtout donc ce City Arsenal, donc avec ce choc au sommet de la Première Ligue, un choc qui n'a pas donné de but, mais qui a été, je l'ai dit tout à l'heure, vraiment incroyable d'intensité. Enfin, je suis désolé, je veux pas faire de French bashing, parce que vous voyez bien qu'on aime la Ligue 1. Hein. Mais c'est un autre football. Ce qui se passe en Angleterre, c'est un autre football. C'est.
Enfin, voilà, ouais, c'est... mais à l'arrivée, ça a couché d'un petit match.
Il manquait que les buts. Il manquait que les buts. Moi, je trouve qu'on est tombé sur des défenses incroyables.
J'ai vu la dernière demi-heure. C'était extrêmement cafouillage. Hein. Ouais, j'ai pas énormément kiffé. Alors, tu sentais vraiment que City essayait d'aller mettre ce but, donc ça oui. forçait, mais ça forçait. C'est le bon terme. C'était pas très précis au niveau des passes. Ça essayait. Alors, il y avait de l'intensité, comme d'habitude en Angleterre, mais tu te créais une occasion parce que tu avais un contre favorable. Ça, ouais, je trouvais pas ça venant justement d'équipes qui sont capables de pratiquer un très beau foot que sont Arsenal et City. Ils l'ont montré toute la saison. Là, tu sentais quand même que à l'arrivée, ça a beaucoup bataillé. T'as 1,5 XG en cumulé pour les deux équipes. Ouais. Alors que quand tu prends Liverpool, bah, tu t'amuses un petit peu plus. Tu sens que Klopp, là, il est dans sa dernière année. Le mec, il fait YOLO quand il rencontre City ou Arsenal. En XG cumulé sur les matchs, c'est pratiquement, t'es entre 4 et 5. Donc,
Après le gros problème aussi de ce que je me rappelais aussi, c'est que Manchester City cette année, c'est aucune victoire face aux quatre ou six premiers de première ligue. C'est que t'as quand même aussi un gros problème de victoire au niveau de Manchester City, et j'ai l'impression qu'ils font plus forcément très très peur par
non mais ils sont moins bien. Ils sont moins bien, mais le truc c'est que la force de City version Guardiola, c'est même quand ils sont moins bien, ben, ils sont capables de pas perdre les matchs, quoi. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui ils sont troisième de première ligue. Enfin, vraiment, faut se rendre compte. Hein. On a trois équipes au-dessus de 60 points en première ligue, donc on a City troisième avec 64. Ils ont 64, c'est ça. Arsenal juste devant, deuxième avec un point de plus, 65. Et Liverpool, et là il y a un petit trou quand même qui s'est créé, avec 67 points. Voilà. Donc ils se tiennent en 3 points, les 3. Avantage psychologique, au point et psychologique pour Liverpool, qui reste donc sur 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Arsenal aussi 4 victoires sur les 5 derniers matchs, donc avec ce nul contre City. Et City qui fait un peu moins bien, avec 3 victoires sur les 5 derniers matchs, 3 victoires de nul. C'est quand même un rythme de dingue. Hein. Enfin, je veux dire, la locomotive de première ligue, elle est là. OJCA nous dit très déçu de la première mi-temps du City Arsenal. J'ai pas regardé la deuxième mi-temps. On voit que l'accumulation de matchs en club avec leur pays pèse sur une rencontre. C'est vrai. Moi, pas très déçu. Mais vraiment, j'ai aimé ce match parce que c'était un match qui était intense avec deux oppositions style. J'ai aimé le Catenaccio mis en place par Arteta. Et qui jouait lui clairement la transition avec un haut de garde incroyable. Enfin, haut de garde, c'est un box-to-box, quoi. Il est. Enfin, je ne sais pas si c'est parce qu'on n'entend pas trop parler, ou je ne sais pas si on parle beaucoup d'haut de garde, mais il est incroyable ce joueur. Le niveau qu'il a atteint à Arsenal est quand même fou, quoi. Il fait tout sur ce match. Hein. Il fait tout. Non? Pardon? Bon. T'as pas les besoins d'acné, quoi.
Si, bah après Odegaard, oui, c'est il arrive bien à se mettre dans ce collectif, mais c'est surtout Odegaard, c'était la pépite norvégienne qui débarque au Real à 15 ans. Limite, on lui met déjà un ballon d'or dans les mains en lui disant tu seras un grand, mon fils. Ça a été très compliqué au Real parce que un petit peu difficile de s'imposer dans cet effectif. Quand même si tu es un pur génie, il aurait fallu à la limite que tu aies une énorme crise, que tu aies toutes les stars qui s'en aillent. Pour qu'il ait une
oui, place. Mais Arnaud, combien des histoires comme ça et qui ont mal tourné, combien on en connaît? Regarde, je lisais encore un portrait de Bojan. Vous savez, de Bojan Krstić. Toi, c'est ce genre de mec. Les mecs à 16-17 ans ont dit waouh, ça va être des cracks. Alors, il n'a pas fait de carrière dégueulasse, ce Bojan, hein, mais tu vois, c'est pas le crack qu'on a annoncé. Là, Odegaard, enfin, vraiment.
Il s'est bien relancé à Arsenal, mais c'est vrai que ça commençait à être un flop à Madrid, et il s'est bien relancé.
Après, c'est tellement des pressions sur des jeunes joueurs où on te dit que c'est quasiment des messies alors qu'ils ont 15 ans et qu'ils ont quelque part pas fait grand-chose. Quelque part, effectivement, c'est pour leur âge, c'est des cracks, mais on en voit tellement souvent maintenant, et tout le monde est un crack. Je me souviens que le transfert avait été quand même assez cher, et c'est pareil, ça te fout une pression sur des jeunes ados comme ça qui n'ont pas fini de grandir et de maturer psychologiquement que ça peut te les bouffer complètement. Et je pense qu'en même temps, Haute-Garde, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tout le monde voulait son retour sur investissement, mais le mec était même pas majeur. Donc,
Attends, bon, là, on va parler quand même du Haute-Garde là qu'on a maintenant, parce qu'aujourd'hui, il n'est plus adolescent.
Oui, mais
il a 25 ans.
Mais du coup,
les gars, il est capitaine d'Arsenal.
Je trouve qu'il a fallu qu'il digère. Et maintenant, c'est vrai que maintenant, il s'est équilibré Arsenal. Tu sens que ça va mieux, qu'il a trouvé son poste, qu'il n'est pas forcément
dans une position d'attaquant. Capitaine d'Arsenal, capitaine de la Norvège.
C'est un taulier maintenant.
C'est un taulier, merci Jason. C'est un taulier.
La Norvège qui ne s'est quand même pas qualifiée pour l'Euro.
Non mais attends, après, ok, il y a deux gardes et puis il faut voir après qui c'est qui est à côté. Mais là, en tout cas.
Un joueur devant qui n'est pas trop mauvais.
Oui, et puis Allende, il n'est pas mal.
Et ils ont un bon défenseur central. Donc en fait, ils ont une. La Norvège a une colonne vertébrale, mais après il leur manque encore des bons joueurs comme tu pouvais avoir avec la Suède où tu avais Zlatan en totem et tu avais des très très bons joueurs autour qui commençaient à bien se mettre en
place. La Norvège, c'est pas, tu vois,
ça, moi mais ça la fait Norvège,
penser à,
oui, pour
ça
l'instant,
à la Pologne, hein. Toi, c'est un peu la Pologne, hein. C'est à Lewandowski, t'as plus personne à côté, hein.
Déjà, tu as un bon gardien. Quand tu as Zielinski dans les buts, c'est quand même pas mal.
Comment il s'appelait le Polonais qui joue à Dortmund, là, l'ailier là, qui était pas mal. Jakubowski, là, ça vous dit pas quelque chose? Blakulowski.
Il y a Jankulowski aussi, mais...
Non, Jankulowski, c'était après, plus vieux. C'était...
Si tu mets n'importe quel nom avec ski derrière, on peut
non, te croire. Non, mais on va trouver Blazikowski, ça vous dit pas quelque chose, ça, Blazikowski?
Si, mais ça, c'était... Il n'a pas joué à Dortmund?
Mais si, c'est ce que j'ai dit. Mais qui sont insupportables.
Dortmund,
non, mais Carlos, là, il est en train de voir que Auxerre gagne 1-0 à Ajaccio.
C'est ça. Je regarde. On a perdu Joubaï. Et là, par contre, c'est pareil. On a perdu notre
Bref, tout ce que je voulais dire, c'est que...
Là, on passe de City Arsenal à Ajaccio à Auxerre. Bienvenue dans
le OGCM, il s'en souvient de ce Pauline Dortmund. Allez, on va essayer de le trouver. Peut-être que si vous nous écoutez, vous pouvez le trouver. On va le trouver. Jakubowski, Blazikowski, ça commençait par un B. Blazikowski.
Oui, mais c'était le droitier qui jouait à gauche. Non, je m'en souviens.
Bon, votre pronostic, sinon, pour la du coup, qui finira.
Merci. Merci, Jason, de nous sortir
de nos tunnels. C'est Auxerre qui montera en première division l'année prochaine.
Non, il a raison. Je veux vos pronos. Je veux vos pronos pour la première ligue. Donc, qui est champion pour vous? Allez, Arnaud.
Ben, je regarde vite fait parce que ce qui est.
Moi, j'ai Liverpool.
Ils ont le meilleur. Je regardais tout à l'heure. Ils ont le meilleur. Le parcours le plus facile, la fin de saison le plus facile. Et sachant qu'en plus, ils n'ont pas la Ligue des Champions, ils n'ont que l'Europa League. Donc, ils vont avoir des matchs un peu moins durs que les deux autres. Arsenal, par contre.
Ah, si, ils vont peut-être affronter Marseille en demi. Hein. Ils tremblent d'avance.
Ah, oui, c'est vrai.
Alors, c'est peut-être facile, mais ils iront peut-être plus loin. Parce que c'est pas dit qu'Arsenal et City passent le prochain tour. Hein.
Alors, moi, par contre, City, je ne les vois pas passer face à Madrid. Hein. Et je pense que ça va leur mettre un coup derrière la
tête. Attendez, les gars, là, on est sur la première ligue. Hein. Donc,
C'est ce que je te dis. C'est qu'en fait, ça va, psychologiquement, ça va les enterrer. Ils ne vont pas passer Madrid et ça va
leur casser. Attends, c'est enterré qui, City?
Oui.
Ok, bon, on a OGCRM qui nous fait le podium, il nous fait Liverpool, City, Arsenal. Liverpool champion. City deuxième, Arsenal troisième.
Je regarde juste.
Arsenal, ils finissent par Manchester. Bon, il y a le derby avec Tottenham, mais Tottenham, ils jouent face à City.
Il reste 8 matchs.
Arsenal.
Voilà. Il reste 8 matchs.
Et ouais, Arsenal. Mais sachant que c'est pareil, City étant qualifié pour la demi-finale face à Chelsea, il va y avoir un match décalé de championnat. Ils vont se retaper un match sur une période de 3 jours. Ça va encore leur casser les pattes un peu plus.
À 3 journées de la fin, on a quand même un joli Tottenham-Arsenal.
Oui, mais Arsenal ne va pas gagner. Moi, je pense que c'est plus Liverpool qui finira devant.
Bon, on est d'accord sur Liverpool champion avec Carlos.
Moi je mets une pièce sur City.
Oh, tu penses
parce que Liverpool se prend quand même Manu et fait un petit enchaînement Everton, West Ham, Tottenham, Aston Villa, et ils finissent à Wolverhampton. Et ils ont le calendrier le plus compliqué pour moi. Et surtout, c'est que pour moi, Liverpool gagne la Ligue Europa, donc ils ont des matchs jusqu'au bout à jouer. Donc, après City, tu vas me dire qu'ils peuvent aller aussi en finale de Champions. Donc, mais tu vois, je sais pas, City, ça a l'air d'être un peu plus simple en très grosse équipe. Tu as le prochain match avec Aston Villa, Tottenham, Brighton. Mais sinon, ils finissent Nottingham Forest, Wolverhampton, Fulham et West Ham. Donc, sur un malentendu, City, ça fait 15 points rien que sur les 5 derniers, les 5 derniers matchs. Hein.
Et Arsenal, ouais.
Et Arsenal, ça fait donc l'automne, normalement ça devrait aller. Brighton, Aston Villa, Chelsea, Tottenham, et ça finit par Man U et Everton. Ouais, ça fait quand même des gros. Hein.
J'aimerais un consensus, s'il vous plaît. Et on fait un coucou à Lolox Lolo aussi dans le chat qui vient nous rejoindre. On est en train de terminer l'émission, mais bon, on fait quand même un petit coucou.
Donc moi, ça serait City, Liverpool et Arsenal, même si j'espère franchement, pour la dernière de Klopp, que Liverpool soit champion.
Ok, bon, écoute, il n'y a que Arnaud Levien de Petit Canard qui met City champion. Moi, je vais mettre aussi...
Non, j'ai dit que je veux que Liverpool soit champion, mais il y a raison et...
Oui, mais c'est ta raison qui a parlé en premier. Donc,
on voit le côté ingénieur.
Voilà, non, mais moi, je mets Liverpool
aussi.
C'est
pas beau, c'est pas beau, monsieur.
Je mets Liverpool champion parce que je pense qu'il y a une dimension émotionnelle avec le départ de Klopp qui fait que ces joueurs se transcendent. Le match contre Brighton, il était mal embarqué. Brighton, ça avait tout de l'équipe merguez. Donc, toi, c'est les types, ils t'ont mis un but, casque. Enfin, les mecs, quand Welbeck a marqué, les mecs, ils disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? On a marqué contre notre camp? Non, on a vraiment marqué contre Liverpool. Et ensuite, ils ont bétonné, enfin, les mecs, ils ont appelé tout le BTP là autour du stade. Ils ont dit, venez les gars, pendant 90 minutes, on va attendre le résultat. Et derrière, il y a eu un. Voilà. Il y a une déferlante Liverpool et ça, il n'y a qu'une équipe qui a envie de bien finir qui peut faire ça. La Jérôme nous dirait mieux que nous. C'est la fin de cycle, ça fait longtemps qu'on l'annonce. Là, c'est Klopp qui a décidé d'une fin de cycle. Mais c'est aussi une fin de cycle pour tout un tas de joueurs liés à cette génération, notamment Mo Salah. Moi, je ne sais pas ce que va devenir le Mo Salah et partir sur un titre de champion d'Angleterre. Il n'y a rien de plus beau, quoi. Voilà les gars.
Cas, d'après Opta, ils mettent eux Liverpool à 46% champion.
Ah, pas mal.
Et en fait, et ils mettent Manchester City à 34%. Arsenal à peine à 20%. En fait, ouais, Arsenal, leur trio de tête, c'est Liverpool, City, Arsenal.
Voilà. Bon, moi j'ai beau adorer Arsenal, forcément, je pense que malheureusement, c'est toujours pas leur saison. Comme le disait très justement JCRM, il leur manque un neuf. C'est pas Gabriel Jesus. Voilà,
c'était Pâques aujourd'hui. Et les neuf, il y en avait quelques-uns à trouver dans les buissons.
Ouais. Mais bon, là les neuf à Arsenal, ils se cachent. les gars, vous savez, vous connaissez le principe de notre barbecue. On termine toujours par la chipo merguez la semaine. Pas toujours, parce que ça nous arrive parfois de la sauter. Là, quand même, bon, voilà, c'est une émission, on va dire, assez classique. On s'est plutôt bien tenu. Voilà, oui, on est à peu près dans nos standards, une heure et quart d'émission. Donc, je vais vous demander à chacun votre chipo merguez de la semaine. Allez, Arnaud, chipo merguez. Excusez-moi, parce que, pardon, on a des nouveaux auditeurs et il faut qu'on leur dise chipo, c'est coup de cœur, merguez, c'est coup de gueule. Vas-y, moi, Arnaud.
Chipo, je l'avais réclamé de mes voeux et je l'ai eu sur Prime dimanche soir, la venue de l'arbitre qui est venu s'expliquer sur les deux décisions. Alors après, qu'on soit d'accord avec lui ou pas, c'est une chose, tu peux continuer à débattre, mais au moins, tu peux débattre sur quelque chose de factuel. Tu n'es pas à faire des circonvolutions dans tous les sens, à savoir ce que le mec il pensait. Là, tu as la réponse. Alors après, ce que je viens de dire, c'est que tu sois d'accord avec lui ou pas, que tu sois convaincu des arguments qu'il avance, où il a pris sa décision, mais c'est une décision collégiale, avec les mecs qui sont dans le quart. Mais au moins, tu as l'explication. Ça permet de rappeler aussi 2-3 règles, aussi bien aux commentateurs consultants qu'aux gens qui suivent le foot de près ou de loin. notamment sur la règle du hors-jeu avec Luis Enrique, pas le coach, mais le joueur, devant Donnarumma, qui fait que le but de Verretou est refusé. Voilà, le mec, il est venu s'expliquer. Moi, c'est ce que je réclame de mes voeux. La sonorisation, pour qu'on ait aussi le fait que les joueurs se tiennent un petit peu mieux avec les arbitres, que les arbitres aussi parlent calmement avec les joueurs. Si tous ces gens sont entendus et qu'on sait ce qu'ils se disent, voilà, c'est pour moi, c'est le minimum syndical. L'as dans tous les sports. Et le truc qui serait encore mieux, ça serait que l'arbitre prenne 3 secondes dans le match. Il est sonorisé, il a déjà un petit micro pour parler à ses potes, tu le branches avec la sono du stade.
Comme
dans les sports américains, comme au rugby, en NBA, en NFL, tu as le mec qui dit, voilà, hors jeu, parce que Luis Enrique est à côté, il est dans la zone d'action de Donnarumma, il est hors jeu au niveau de la frappe, au moment de la frappe de Veretout. Point final. Allez, emballé, c'est pesé.
Là, on va pas refaire le match, mais quand même un petit peu.
Non, mais ça ou autre chose.
Sur l'histoire du carton rouge de Berardo, en fait, Benoît Bastien, il se fait matrixer le cerveau par l'arbitre VAR.
Et non, il s'explique. Et là, et justement, dimanche soir, il s'explique. Il dit, moi, je suis de biais, je vois Beraldo, et finalement, il ne voit pas Aubameyang derrière lui. Il ne voit pas le geste du bras de Beraldo qui envoie valdinguer. Alors moi, quand j'ai entendu au Giro les Parisiens dire qu'il n'y avait pas faute, notamment tous les Marseillais
il y a faute, mais c'est derrière Benoît Bastien. D'ailleurs, il vient l'expliquer sur Prime Vidéo. Il dit oui, il y a annihilation d'occasion de but. Mais oui. À quel moment
Je pense que là, les mecs, ils essaient juste de se rattraper aux branches. C'est que t'as Beraldo, pour moi, c'est une action qui mérite jaune. Alors après, il y a la fameuse psychologie du est-ce qu'il y a
Mais non, il est dernier défenseur sur la ligne de la vidéo. Maintenant, l'arbitrage, c'est bête et discipliné. Oui. Il est dernier défenseur avant le gardien. Forcément, c'est carton rouge.
Sinon, à 45 mètres des cages.
Il est dernier défenseur. C'est la règle.
Non, il n'est pas dernier défenseur parce que.
Il y a Danilo Pereira en sens.
Non,
si tu traces des lignes. Si tu traces des lignes. Il est dernier défenseur. Non, à un moment, c'est. Par rapport au but, il est plus loin que Danilo qui est au milieu du terrain. On va faire un rappel. Le théorème de Pythagore.
Exactement.
L'hypoténuse est plus long que le côté adjacent.
Je suis d'accord avec toi. Maintenant, là, c'est par rapport à la ligne. Quand vous regardez, j'entends ce que tu me dis. Mais maintenant, d'un point de vue arbitral, ils veulent des choses simples. Dernier défenseur par rapport à la ligne de
fond. Ça n'existe pas, dernier défenseur, dans les règles de l'arbitre.
Alors, je vais peut-être pourquoi il y a des cartons rouges?
Ça s'appelle annihilation d'une occasion de but. Le principe dernier défenseur en foot n'existe plus depuis des années. Et c'est un petit peu dommage, c'est que nos chers consultants et journalistes ne l'ont toujours pas assimilé, voire même ils inventent des règles.
Ils sont payés pour ça, donc toi tu le fais bénévolement, donc toi tu connais les règles.
Et c'est un petit peu ça le problème. Mais bon, à part quelques consultants qui sont bons et journalistes,
non mais
Julien Drin, je t'aime si tu nous écoutes, et tu es le meilleur journaliste qui existe, et pourtant les supporters l'ont soi, donc il n'est même pas…
Non mais Arnaud a raison, c'est que dernier défenseur, ce n'est pas une règle. En revanche, celle qui est appliquée là sur le carton rouge direct…
C'est annihilation d'une occasion de but.
Et là, donc moi, la question que je pose, c'est à quel moment tu considères qu'Aubameyang, 45 mètres du but, qui est sur l'aile droite, sur la touche, tu considères que le mec est en position d'aller marquer un but?
Papy, voilà. Je considère que Danilo, c'est un tracteur et qu'il ne le rattrapera pas.
Ouais,
c'est
pas
de pas être fou. Voilà, mais c'est d'interprétation. Non, mais pour moi, en fait, il se raccroche aux branches parce que sur le coup,
si tu vas consulter
la VAR, tu ne peux mettre qu'un carton rouge. Parce que cette action, moi, j'ai vu des Parisiens et même les gens sur Amazon. Les Rami, Van Buyten qui étaient invités et Chéroux qui était au commentaire, dire qu'il n'y avait pas faute de Beraldo. Pour moi, il y a faute de Beraldo. Il arrive, il vient le tamponner. En plus, il l'envoie valdinguer avec le bras.
Il y a faute, il y a encore souci.
Il y a même un carton jaune là-dessus parce que pour le coup, il part aussi au but. Il y a un jaune. Alors après, vu que l'arbitre ne l'a pas mis et qu'il doit y avoir sanction, il se rattrape aux branches comme il veut, parce qu'à l'arrivée, le résultat est le même. Hein. Deuxième jaune égale rouge, emballé.
Pas, pas exactement, parce que derrière, tu n'as pas autant de matchs de suspension. C'est ça la différence.
Ah, et c'est surtout, ce n'est pas le même suspension, parce que là, exactement. Beraldo aurait été suspendu contre Lyon, parce que c'était son, en plus son troisième jaune d'affilée.
Exactement.
Et en fait, là, il est suspendu directement contre Rennes, et peut-être contre Clermont, si jamais il y a...
C'est deux ou trois matchs.
Mais c'est pour ça, c'est juste, finalement, il se raccroche aux branches. Mais après, ce qu'on réclame aussi, c'est que le foot soit appliqué de la même façon sur tous les terrains. Et on a quand même vu des occasions comme ça à annihiler, mais là, on n'était pas au niveau de la ligne médiane. On était au coin de la surface de réparation. Et j'ai vu des actions ne pas accorder de carton rouge sur ce genre de choses.
Voilà,
parce que t'étais excentré.
Bref, donc c'est ce que résume OJCRM, c'est que comme il revient à la faute, il va voir le VAR. En fait, quand il va voir la VAR, c'est rien ou c'est rouge direct. Voilà.
Donc, exactement. On est en phase avec OJCRM, mais je n'en attendais pas moins de quelqu'un d'intelligent comme notre auditeur préféré.
Ce qui est pénible, en tout cas, et on va clore ta merguez là-dessus, c'est que...
c'était une chipo à la base. Ça peut se transformer en merguez sur
les journées se suivent et se ressemblent. En fait, il n'y a pas un match où on parle pas de l'arbitrage. Et là, surtout, c'était le match phare de cette journée. Et on parle tous de...
Et il y avait aussi l'illustration, c'est que Benoît Bastien, je ne sais pas si vous l'avez passé sur Twitter, a reçu un 19 sur 20 pour sa prestation, parce qu'il y a eu 106 décisions pendant le match, il y en a eu 104 de bonnes et 2 erronées. Alors, à un moment, je me suis dit, c'est quoi, c'est un poisson d'avril c'est quoi? Et en fait, tu te dis, mais voilà, tu es hors sol. Enfin, quand tu connais un peu la notation des arbitres en Ligue 1 qui leur permettent de dire s'ils sont maintenus, ils sont relégués.
C'est
du n'importe quoi.
C'est
tout le monde à 10. Et si jamais tu fais un match exécrable, tu as 9.
C'est tout le monde à 15 et ils se tiennent entre 14,93 et 15,02, tu vois, c'est ça.
Donc il y a un mec des arbitres qui s'est fait dégager, et il y a quand même pas mal de clubs qui aimeraient que
Anthony Gauthier, ouais.
Ouais, que et que c'est Lannoy.
Stéphane Lannoy.
Et Stéphane Lannoy qui se fasse dégager aussi, parce qu'il y a.
Bon, il y a une histoire avec les clubs pro et tout. On peut pas le faire sur cette émission. On va prendre
Marc Keller qui a pas été dans le sens, mais peut-être parce qu'il a des intérêts dans la FFF.
Merguez chipo, mon petit Jason.
Je vais faire un peu comme Arnaud, je vais faire une chipo qui se ressemble un petit peu en merguez sur la fin. Et encore de l'arbitrage. Alors ça démarre en chipo parce que Willy Delageau, il a annulé un carton rouge qu'il avait distribué à Medina en début de match, et fort justement, parce qu'il y avait une intervention un peu virile, mais voilà, il touche un peu le ballon. Enfin, c'était logique et surtout c'était rapide. Franchement, le match n'a pas été un temps plus longtemps, donc c'était plutôt une bonne chose. Par contre, en fin de match, le même Medina qui fait un geste d'humeur, qui dégage le ballon clairement, volontairement, et qui shoot Santos à bout portant. Et là, ça méritait au moins un deuxième jaune, si ce n'est un rouge direct, je trouve, ce geste d'humeur. Et il ne le met pas, et là, je ne comprends pas. Quoi. Voilà.
D'ailleurs, pendant le Lorient-Brest, on a oublié le pénalty oublié pour Lorient.
Ouais.
Pour la main dans la surface, qui est sifflé dans 90% des cas, parce que la main est largement décollée, que le ballon va vers le but, donc le mec annule une occasion de but avec la main, en augmentant la surface de son corps, il n'y a pas pénalty. Alors qu'il y a, et la VAR donne raison. D'ailleurs, on n'a pas entendu le président de Brest se plaindre de la VAR, donc c'est que c'était pas mal pour lui.
Jason, encore une petite merguez, une petite chipo à nous partager?
Ouais, et si je dois mettre une deuxième petite chipo, Comboiré qui revient et qui gagne, voilà, je trouve ça assez miraculeux, ça me fait marrer.
Moi, on est d'accord. Carlos.
Oula. On va dire que c'est à la FFF. Parce que, franchement.
Attends, merguez ou chipo, là?
Ah, ben, merguez.
La merguez. FFF égale merguez. Hein.
Ah, ben, FFF, vas-y. Forcément, merguez. La FFF qui a dit que pour la sécurité des joueurs, les joueurs ne devaient pas faire le ramadan. Ils ne devaient pas jeûner parce que ce n'est pas bien pour eux. Il faut les comprendre. Il faut qu'ils aient un corps, une sorte de mécanique extraordinaire. Il faut qu'ils le préservent. on en pense ce qu'on en veut. Et puis, ben, on apprend qu'il y a des joueurs de l'équipe de France qui ont fait une petite soirée, apparemment, au Sofitel de Marseille, où, entre les bouteilles d'alcool et les bonbonnes de protoxyde d'azote, le gaz hilarant, en fait, ils ont fait une soirée. Alors, il y avait surtout trois joueurs de l'équipe de France, où ça a été quand même, il y a une jeune fille apparemment qui a fait une sorte de malaise. Ça a été quand même, folichon, hein, la soirée qu'ils ont faite. Donc, au bout d'un moment, la FFF, il faut qu'ils s'arrêtent de se foutre de notre gueule, quoi. Soit on fait, d'accord, on a quelque chose sur la performance, le côté il ne faut pas qu'on sorte, il faut qu'on se maintienne en forme et tout, et on fait ça pour tout le monde. Ou alors, si on autorise à faire des soirées comme ça, eh ben on autorise aussi les joueurs à pouvoir réaliser quelque part les contraintes de leur religion. Et en plus, c'est des gens qui savent se gérer. Il faut qu'ils arrêtent. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Et après, en même temps, il y a eu des noms qui ont fuité au niveau de cette soirée. Et alors, c'est bizarre parce qu'en fait, l'équipe en a pas parlé. Ça n'a pas été Benzema, ça n'a pas été Ben Arfa. Ça n'a pas été non plus Pogba. Apparemment, ce n'est pas des joueurs
qui font le ramadan. Citer.
Voilà, qui font le ramadan. Enfin, il y en a un qui fait carême, normalement. Il y en a un qui fait carême, mais il n'a pas fait beaucoup carême, là, apparemment.
Non, il n'a pas bouffé que du chocolat. Quoi.
Exactement. Bon,
les amis,
son ami Jésus n'était pas très proche de lui.
Alors. Mais de toute façon, c'était une habitude. Si tu repars même une vingtaine d'années en arrière, ce qui se passait dans les hôtels, etc., au moment de France 98-2000, si les murs pouvaient parler. Et le truc, c'est qu'en 2002, c'était porte ouverte dans tous les sens. On a vu ce qui s'est passé aussi en 2002, où là, tu avais les femmes qui étaient aussi dans les hôtels. Enfin bref, je vous laisse imaginer. Mais tant que tu gagnes, on te passe tout dans le foot. Il faut le savoir. Mais c'est le jour où tu commences à perdre, où là, les trucs commencent à ressortir. Et au niveau du ramadan, j'ai aimé la sortie de Lucas Elsner, qui a dit, mais moi, les mecs qui font le ramadan, il n'y a pas de problème. C'est des grands garçons, ils savent se gérer. Et je crois que c'est Molina qui en parlait dans une de ses vidéos. Le souci, ce n'est pas les mecs qui font le ramadan depuis qu'ils sont petits, qui ont l'habitude de jeûner, parce que c'est une habitude à prendre pour ton corps. C'est plutôt les néo-convertis qui, eux, du jour au lendemain, se mettent à faire le ramadan et en étant sportifs de haut niveau. Et il y a eu quelques malaises. Et voilà, parce que ça existe. Mais, et tu as beaucoup de clubs, parce qu'on parle aussi de ça, mais tu as beaucoup de clubs qui sont avec les joueurs, qui essayent de les accompagner. On vient les voir, on leur dit qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu vives ta foi dans la meilleure solution possible et que ça soit le meilleur pour toi. Il y a des typiquement à Paris, etc. C'est ce qui est fait. Alors après, il y a Bibey aussi qui avait fait une sortie parce qu'on lui avait demandé. Et le Red Star, autant vous dire que le Ramadan, ça concerne 14 joueurs de l'effectif. Et lui, il rajoutait qu'il y en avait 5 ou 6, je ne sais plus, 5 qui faisaient aussi le carême. Donc il avait 19 joueurs qui, dans cette période carême-ramadan, avaient des restrictions alimentaires et de boissons.
Les amis, je suis désolé.
Et lui, c'est là pour le
très intéressant, pour aider. Mais on va pas faire une spéciale.
Non, mais voilà. Mais
ok, Carlos.
Bravo les FFF. Voilà, bravo. C'est extraordinaire.
On avait donc la chipo d'OJCRM. Il nous dit que c'est Guendouzi qui est mis sur le banc par Tudor. Donc c'était pour ceux qui n'ont pas suivi, donc Igor Tudor a repris en main la Lazio, donc l'ancien entraîneur de l'OM, qui a gardé toujours une cote très vivace hein, en Italie, notre ami Igor Tudor, surnommé Per la rigueur. Et donc pour son premier match, pour son gros choc contre la Juventus, il met Guendouzi sur le banc. Guendouzi rentre à la 80e, il met une passe décisive pour le but du 1-0 et le but de la gagne contre la Juve. Et donc Guendouzi pointe le doigt vers Igor Tudor et vers le banc pour lui dire « c'est pas bien ce que tu as fait de m'avoir mis sur le banc, tu vois, je te l'avais dit ». Ça, c'est une belle chipo, je suis d'accord avec toi, JCRM.
Pas donc, content, passe décisive.
Voilà, pas content, passe décisive. Et donc JCRM nous dit « du coup, sa merguez, c'est Allegri. Allegri, donc l'entraîneur de la Juve qui est perdu pour le foot ». et qui nous rend fou. Et quand il nous rend fou, bah oui, il supporte la Juve, notre ami aussi Serena également. Donc c'est sûr qu'avec Marseille et la Juve, t'es pas mal hein, niveau chaleur. Donc on a également Elio. Qu'est-ce qu'il nous met comme chipo, notre ami Elio? Il nous dit, ça, chipo, c'est l'interdiction de déplacement des supporters parisiens encore en fait. Ah non, c'est ça, merguez. C'est un coup de gueule, hein, mon petit Elio. Donc, merguez, il nous dit, c'est l'interdiction de déplacement des supporters parisiens au Vélodrome. C'est triste, ouais, effectivement. C'est pas cool.
Surtout que quand tu viens célébrer, les gens te balancent des kebabs. Donc, ça,
Ouais,
c'est beau.
c'est ça. Et d'ailleurs,
J'ai oublié
allez.
le stade, moi.
Allez, on avait notre petite merguez pour Rogi CRM. Il nous dit. Une petite merguez, ce sont les supporters de Marseille qui nous font un tifo de
Ouais.
très mauvais goût, alors que c'était l'anniversaire de la mort de Diouf et qu'il y avait Guéretz en tribune. Donc, si vous n'avez pas suivi cette histoire du tifo de l'OM, c'était un tifo donc pour
Sponsorisé.
voilà, sponsorisé donc pour Redouane Bouguerraba.
Un...
C'est un humoriste, c'est ça?
Oui,
Un
a priori,
stand-upper, ouais.
vraiment typique. Bon, moi, je le connais pas, donc peut-être que.
Alors,
Mais
c'est un
en tout
humoriste.
cas, c'est quelqu'un qui est très ancré à Marseille, qui est né à Marseille, qui a
Voilà,
grandi,
et
qui a
donc
eu
apparemment,
une
c'est
enfance
ça.
compliquée, mais bon, voilà.
Et donc en fait, il va faire un spectacle hein, bientôt au Vélodrome, hein, donc cet humoriste. Et donc les South Winners, hein, on ne les présente plus, avec leur emblématique, enfin je ne sais pas si on doit dire emblématique, mais avec leur porte-parole, gourou, chef, je ne sais pas trop. Leader, voilà, Rachid Rezoual, qui donc ont fait ce tifo, comme nous dit GCRM, de mauvais goût. Alors je sais pas, est-ce que c'est une pique à Longoria, est-ce que c'est, je sais pas, en tout
Non,
cas c'est un mec,
c'est une commande.
c'est
C'est
une commande, hein.
sponsorisé. Ils ont reçu de l'argent.
Ils ont reçu de l'argent, voilà. Bah
Bon,
écoutez.
justement, avec ce qui s'est passé avec eux, voilà. Est-ce qu'on est étonné de zéro à l'essai clic, quoi? Enfin, ça part totalement en sucette. Et après, ils se demandent pourquoi l'OM n'est pas racheté par quelqu'un avec des fonds importants. Tu vois, typiquement, ça fait le genre de choses où, tant qu'ils n'auront pas fait du ménage dans leur tribune, l'OM ne sera pas racheté par un fonds souverain ou quoi que ce soit. Les
Non,
mecs,
bon.
Paris s'était fait racheter par les Qataris. Le premier truc, les mecs, à mon avis, quand il y a eu les négociations, c'est vous nous nettoyez vos tribunes là. Moi, les nazis avec les mains, avec les bras tendus, j'en veux pas.
Ouais,
Ils ont été dégagés.
c'est ce qui
Il y
s'est
a eu
passé.
pacification des tribunes du parc et les mecs, ils sont venus. Pacifier les tribunes de Marseille, dégagez-moi tous ces mecs, faites en sorte que ça ne vienne pas incendier la commanderie. Et peut-être que des gens autres que des cache-cars ou autres guignols viendront. J'espère mettre de l'argent à Marseille parce que ça ne serait que bénéfique
Bon, en tout cas,
pour le championnat de France.
ce coup de com' avec ce tifo était bien malvenu avec effectivement cet anniversaire, triste anniversaire hein, de la mort de Pape Diouf, pour le coup emblématique président de l'OM, et Guéretz, Éric Guéretz en tribune. Bref, voilà, donc t'as bien fait d'en parler aussi,
Avec
CRM.
Tapie, c'est les deux présidents emblématiques de Marseille.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'il avait eu, il y a eu quelques banderoles dans un vélodrome vide pour sa mort. Là, c'était un moment de marquer le coup. Non. Bon.
Voilà, mais parce que tu comprends, c'était la direction de l'OM hein, qui était à la manœuvre, donc forcément, hein, c'est impossible de s'aligner. Voilà, donc s'ils peuvent faire chier Longoria, ils le font et c'est bien sûr pour les mauvaises raisons. Les gars, c'était un plaisir de vous avoir autour du barbecue. C'était un barbecue un peu plus long que d'habitude, oui, on a fait 1h30. Bon, bah écoutez, c'est lundi de Pâques, enfin c'est dimanche. Non, c'est lundi de
Non,
Pâques.
lundi Pâques.
Oui,
Lundi de
moi
Pâques,
aussi, je me suis
voilà.
cru dimanche toute la
Oui, c'est ça,
journée.
je me suis cru. Exactement.
Mais j'attendais des matchs pendant la journée, mais en fait, rien.
Ben
Il y a, bon, il y a, si, il y
non,
a Jacques Léoster.
exactement. Et puis, bien sûr, on adore vous avoir, Arnaud et Carlos, mais le retour hein, de l'abonné lillois Jason Boutane nous fait aussi très plaisir. On espère
Merci.
t'avoir encore pour parler de Lille sur le podium.
Ah bah j'espère aussi.
On fêtera ensemble la qualification lilloise en Ligue des Champions direct.
Avec plaisir.
Allez, salut les gars, portez-vous bien, à bientôt.
Salut.
Salut à tous.